Moi, j'avais envie de poser une question, parce que on échange, comme j'ai dit, c'est la pratique, on ne dit pas la messe, c'est vraiment le partant de la pratique. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous avez le souvenir, vous, d'un entretien, d'une interview qui vous a marqué? J'ai plein de trucs, enfin, plein, pas tant que ça. Est-ce qu'il y a particulièrement, et pourquoi vous avez aimé tel ou tel entretien que vous avez entendu hier, ou il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 50 ans pour Manoli?
Jean-Marie. Non, c'est vrai, mais c'est moi qui l'ai fait.
Jean-Marie?
Ouais, Jean-Marie.
Ah, je dis des Jean-Marie, c'est des...
Ah oui, non, Jean-Marie, ah oui. Ouais, où en fait j'avais super préparé le truc à fond, enfin c'était pour un film en fait en l'occurrence, à l'époque je faisais de la critique de film.
Et t'as accordé un entretien, c'est ça?
Ouais.
D'accord.
Et du coup j'avais préparé plein, mais c'était mes premières interviews, et donc j'étais complètement un peu désemparée, enfin genre la petite... Et puis j'étais d'autant plus désemparée que pour moi Jean Marais c'était Jean Cocteau, c'était La Belle et la Bête, tout ça, enfin... Le beau mec, 30 balais, hein. Et que quand il est arrivé, j'ai vu un vieux mec, tout rouillé, tout barbu, enfin c'était juste l'horreur quoi. Enfin, et je me suis dit, oh, putain, voilà, quoi, encore raté d'une certaine manière. Et puis et je lui dis bonjour, mais bon, bonjour quoi.
Déçu.
Ouais, mais vraiment déçu quoi. Et là, le mec a ouvert la bouche et il a dit bonjour avec sa voix sans arrêt. Et je me suis aperçue à ce moment-là que, bah, qu'en fait la voix c'était pas mal, que c'est un truc qui, même si ça évolue, on entend Jeanne Moreau au début ou à la fin, c'est quelque chose qui continue. Et le truc qui m'a sauvée justement c'est la préparation, c'est-à-dire que j'étais hyper désemparée, je savais au fond pas quoi lui poser comme question. Et en fait, comme j'avais pas de questions, parce que ça c'est, je travaillais avec souvent on faisait des interviews groupées avec une autre journaliste, et du coup elle avait une série de questions. Et en fait, donc elle était déjà passée avant moi, et en fait, à la fin de l'interview que moi j'avais fait avec ce monsieur, il m'a dit qu'il était super content, donc ça m'a fait du bien déjà, parce que justement, j'avais pas de questions prédéfinies, et que du coup, j'ai laissé venir un peu ce qui venait, et que comme j'avais super bien préparé, j'étais capable de rebondir sur ce qu'il racontait. Et du coup, le truc, il a été super riche, et il s'est senti super libre, en fait, au fond, et pas dirigé. Voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.
Ça, c'est hyper important que vous sachiez aussi, selon les expériences de vous qui vous êtes professionnels, savoir si quel support préparer, qu'est-ce qui vous anime le plus, si c'est plutôt voilà, une liste de questions, connaître un peu le contexte et laisser libre cours aux choses. Enfin, je pense que ça peut nous intéresser.
Il y a différentes façons de faire. Ici, je vois des trucs. Alors, Henri, par exemple, n'est pas un journaliste professionnel, lui, il écrirait. Mais il y a un risque. On peut passer à côté de certains aspects. Magali, qui était avant Alexandra, avec qui j'ai bossé 8 ans, elle écrivait tout. Mmh. Moi, je suis dans l'entre-deux.
Toutes les questions,
les articulations, sur son conducteur, ta. Et elle pouvait faire son émission, et c'était paf, carré. Mmh. Moi, ça me correspond au moins, et puis je pense qu'on fait de la radio selon sa psychologie, sa personnalité, et c'est très bien comme ça. Moi, je vais mettre des phrases clés ou des mots-clés. Ou alors, les lancements, je vais les chialer. Parce que ça fait partie de la préparation, et c'est le bout de la préparation, c'est comment on amène la première question. Et si on se plante dans la première question, on est quand même dans un rapport, pas de force, mais psychologique. On doit montrer qu'on tient un peu la baraque, quand même, dans l'entretien, qu'on est légitime à poser des questions. Il faut avoir un bon lancement. Donc, des fois, moi, j'écris mes lancements. Et sans les lire, c'est-à-dire en les interprétant plutôt qu'en les lisant, et être très ferme, enfin avoir de l'aplomb sur la première question notamment, parce que c'est l'impulsion de tout le reste. Et si on se banane, ça je parle en connaissance de cause, sur la première question qu'on est flou, alors là on coule. C'est les petites bulles qu'on entendait tout à l'heure dans le montage. Voilà. Donc moi c'est le conseil que je vous donnerais par rapport à ma pratique, c'est que le début du truc, le lancement, le truc... un appui costaud, et après ça dégage des espaces de liberté. C'est intéressant ce que disait Manoli, justement.
Oui, ouais, Pascal, tu m'as toujours dit les lancements, les transitions, la conclusion. En gros, c'est un peu c'est les repères des articulations.
Et après, des cultures. Et ta sincérité. Il y a un truc dans Paoli, et ça, c'est un truc qu'on pourrait tous remarquer. Je pense que il ne faut pas que je parle trop, j'ai envie de vous entendre aussi. À un moment, Paoli, qui n'est pas mon maître, lui, hein, il a été très sympa, mais j'étais pas politiquement, je ne suis pas du tout sur son truc. Et voilà. Et par exemple, il dit, voilà, la radio, il n'y a qu'une. Il n'y a pas des radios grosses, des petites, c'est la radio, ce qu'il dit dans le truc. Et il dit, c'est aussi être en empathie À moins qu'on ait envie de péter la gueule à son interlocuteur à la Bourdin, moi c'est pas trop mon truc, mais tenir avec le regard son interlocuteur. Je sais que moi je le fais naturellement. Dans un exercice radio, en presse écrite, j'en ai fait un peu, j'en refais d'ailleurs. Et c'est un peu. Mais en radio, tenir le regard, ça veut montrer qu'on est dans le truc. Et puis ça, moi j'ai l'impression que dans l'entretien téléphonique,
c'est un nouveau concept d'émission.
Oui, j'ai envie de faire du marketing, que... tu sais. Et on est dans une sorte de bulle comme ça concrète, dans un espace-temps qui est très particulier. Voilà ce que j'ai envie de vous dire de ma pratique, mais voilà. Réagissons tous.
Juste pour un tout petit élément, avec Pascal, moi j'ai d'abord été bénévole pour lui filer un coup de main sur une émission mensuelle dédiée à l'économie sociale et solidaire. Comment vont les fourmis. Il y avait des fois où on avait préparé ensemble un plan extrêmement détaillé et qui s'apparente quasiment à un exercice un peu littéraire ou de dissertation où on a une problématique et puis il y a un grand 1, un grand 2, un grand 3, petit tas, etc. Bon, c'était des émissions avec plusieurs invités, des angles thématiques croisés, donc c'est pas la même chose quand on est face à un seul invité, en tout cas sur ce genre de format. Il y a des fois où on avait fait des choses, du coup, parce qu'on voulait passer par tel petit point qui était intéressant, et finalement l'émission a dévié et il y a eu des choses vachement intéressantes en déviant, et il y a eu des fois où ce cadre était trop rigide ou au contraire il a servi et ça a permis d'aller précisément sur ces points qui étaient, et c'est vraiment un exercice qui peut être différent même sur la même émission. Il y a des fois où ça peut être trop rigide et d'autres fois où ça peut être un support, donc de toute manière il y a une part d'improvisation et qui fait que voilà, il n'y a pas de règle absolue puisque en fonction de chaque personne en face et des interactions qui vont se dérouler, la formule est amenée à changer.
Juste un truc, je dis souvent à Alexandra, se poser toujours la question si on fait un moment de radio, si on est dans un moment de radio. Est-ce qu'on est dans un cours à la fac? Est-ce qu'on est dans un moment... Helmut que tu as choisi, moi j'étais bien content que tu choisisses, c'est très bien d'avoir choisi Helmut. Helmut, il a ses questions, il fait de la radio. Il a des questions, il a ses maladresses, et c'est pas grave. En plus, si on n'a pas le droit... On ne peut pas avoir des maladresses et se tromper dans une radio associative, ce serait bien dommage. Mais Helmut, il fait vraiment une émission de radio. Et voilà, et c'est trop drôle. Moi, j'ai une anecdote, à un moment, il parlait de culture blaxploitation, années 70, cinéma black aux États-Unis. Il commence à partir dans un truc. Moi, j'étais suspendu au truc. Et puis, t'es là, collé. Ouais, et puis alors, oui, alors ce mec-là, il était à New York et à Boston. Et puis après, oui, bon, de toute façon, bon, vous verrez bien, moi, je pense à un disque maintenant. Il te lâche, mais ça fait un moment de radio quand même. Et tu apprends un truc dans son émission et tu ressors moins con de l'émission.
Je pense qu'il y a, pour répondre à ta question, ça va, enfin, la préparation elle va être hyper importante, mais aussi dans l'angle que tu choisis dans ton interview. Parce que tu as des interviews, donc encore une fois Laure Adler avec Vincent Lindon, une interview très intimiste, etc. Enfin, les interviews de Laure Adler en général. Et après, tu as des interviews qui sont hyper factuelles, hyper... Moi, le documentaire que j'ai fait, c'était sur le nucléaire en Inde. Donc, c'est pas du tout intimiste comme interview. C'est, voilà, c'est des interviews, si j'étais pas préparée, je me plantais complètement. Parce qu'en face de moi, j'avais des pontes indiens du nucléaire, des mecs qui s'y connaissaient, qui avaient bossé dans le nucléaire, qui étaient soit pour, soit contre. Et il fallait que je puisse rebondir, donc il fallait que je connaisse mon sujet par cœur. Et donc en fait on avait des discussions, alors là où c'est différent c'est que c'est pas des interviews en direct à la radio, mais moi j'ai eu une formation dans une école de journalisme spécialité radio et je pense que j'ai gardé un peu ce truc là, et quand je préparais mes questions j'avais besoin de les préparer, je faisais des mini lancements en fait à chaque question où je parler un peu comme Mermet, tu vois, parle de son sujet. Alors parfois tu peux avoir l'impression qu'il s'étale un peu dans son truc, mais il n'empêche qu'il parle, l'interviewé ça le va le mettre à l'aise, il va se dire ok là il me parle de choses que je connais, ah d'accord il veut m'emmener sur ce terrain là, d'accord il veut que je prenne cet angle là, bah c'est parti. Et après l'interviewé il va répondre à ta question comme t'as imaginé qu'il le fait, et c'est là que peuvent naître des super beaux moments de radio si c'est une interview plus intimiste. Mais c'est parce que toi, tu les auras préparés, en fait. C'est pas parce que tout d'un coup, t'as demandé
tu vas avoir l'impression que les questions, parfois, de l'intervieweur, elles sont un peu... elles tombent un peu comme ça, de n'importe où. Mais en fait, elles sont hyper préparées, même quand elles paraissent un peu improvisées. Et c'est là que naissent des beaux moments de radio, où quand c'est pas des interviews intimistes, mais des interviews hyper factuelles sur des sujets hyper pointus, c'est là que sortent des trucs hyper pointus aussi. Tu vois, c'est... En fait, il faut se mettre au niveau de ton interview. Ouais.
Quitte à poser une question peut-être un peu pointue, que les auditeurs comprennent pas de premier abord, mais qui justement amène l'invité à expliquer. Toi, tu l'accompagnes dans l'explication du sujet ou...
Après, en direct, il faut quand même que ta question soit comprise par les invités. Par exemple, tu vois, la question de Laure Adler, combien de mois, combien de lieux, Vincent Lindon, il s'est foutu de sa gueule, mais il a raison de se foutre de sa gueule, parce qu'elle est partie. C'est la troisième question de l'interview, elle te fait une thèse de philo, c'est pas possible en fait. Donc là, elle a de la chance, parce que finalement, l'interviewé est très bon, et qu'il la recadre. Et donc ils rigolent entre eux, et bon ça c'est encore un autre sujet, c'est comment rebondir quand ton interview se passe pas exactement comme t'as prévu. Mais, et ça, bon, elle est hyper rodée, donc elle sait le faire. Mais finalement, elle a du pot que lui, il lui dise tu te calmes, on va redescendre un peu.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en fait, au fond, une interview, c'est absolument pas une conversation. Il y a toujours un tiers, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme en photo, quand on voit quelqu'un qui est photographié, on se dit, ah bah oui, tiens, il y avait cette personne-là. En fait, sur place, il y avait aussi le photographe. Et bah, en interview, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a les deux personnes que tu vas écouter, c'est-à-dire l'interviewé et l'intervieweur, mais il y a aussi l'auditeur. Et l'auditeur, il est super important. Et c'est pour lui, au fond, que ça se passe. Et donc, du coup, c'est pas uniquement toi sous ta douche ou avec tes potes. Quand bien même, ça peut être un truc hyper sous la douche avec tes potes. Voilà. Enfin, intimiste, tu veux dire.
On va faire une émission là-dessus. Alors, il y avait une question dans l'interview, mais alors moi, je suis... Oui, vas-y, termine.
Et en fait, je voulais... Parce que je trouvais que c'est... Un jour, on m'a dit qu'il y avait une différence entre la chasse et la pêche. Et je trouve qu'en fait, c'est exactement ça. C'est soit tu vas pêcher quelque chose, soit tu pars à la chasse, voilà, et tu veux tel truc sur très l'encre et tout ça, soit tu vas à la pêche. Et donc, effectivement, tu peux jouer avec la différence de mouche et tout ça, mais voilà, quand tu vas à la pêche, en fait, c'est que tu sais pas trop, mais globalement, ça va aller, pof, et puis tu viens, tu prends un peu ce qui se passe. Quand tu chasses, en fait, tu vas faire ton interview vraiment dans ton truc, quoi. Et donc, c'est des positionnements, au fond, que tu peux, toi, adopter en fonction de ce qui te parle, de la façon dont tu es plus à l'aise.
C'est juste pour ne pas l'oublier, la question du silence, moi, je gère très mal, qui m'angoisse peut-être inconsciemment. Alors là, c'est marrant, dans le truc de... On entend un silence que je laisse passer, et je trouve ça, c'est... Je me dis, là, il faudrait vraiment que je progresse là-dessus. Laisser le silence. Et le silence, c'est vraiment une note, hein. Et c'est vachement intéressant dans l'interview, le silence. Et on a toujours envie de combler. Moi, je suis souvent au cul de mes interviewés. Et je devrais leur lâcher un peu la grappe, des fois. Et je me dis ça. Et je ne sais pas si vous posez cette question-là du silence dans l'interview. Je ne sais pas, Anne, par exemple, si... question qui
moi, il y a dû en avoir, là, des silences. Là.
Ouais, mais c'est chouette, les silences, dans une interview.
Mais oui, il y a eu des moments où... mais parce que je ne savais pas comment rebondir... Lui a dû le sentir un peu et il a réembrayé. Et du coup, ça fait un petit moment de silence qui, au final, passe bien.
En fait, c'est le risque aussi, enfin, pardon. Mais c'est que si t'es au cul, t'es interviewé, c'est peut-être aussi que t'as envie de cadrer le truc et pas qu'il reparte en roue libre. Et si tu laisses un silence, tu peux aussi laisser le risque de laisser la personne s'engouffrer.
Mais parfois, c'est bien.
Parfois, ça
crée. Oui, c'est bien de laisser advenir, en fait. Ça dépend de qui. Laisser s'exprimer les gens, enfin, et pas uniquement être dans la réaction, de répondre à ta question absolument, quoi.
Mais ça dépend du fond de l'interview. Enfin, c'est ce que tu disais aussi pour le choix des W, là. C'est que si l'interview répond à tous les W, est-ce qu'elle... Enfin, si elle parle de tout, de quoi elle parle, enfin, vraiment, quoi. Si on a un angle...
Non, parce que tu peux quand même maintenir ton angle... Tu vas jamais parler de tout. Je pense que beaucoup de Laure Adler et Vincent Lindon, parce que je trouve que c'est un très bon exemple et que j'aime beaucoup cette interview par ailleurs. Mais tu vois, Laure Adler, donc c'est 2 heures d'émission, c'est énorme. Et pourtant, elle a un angle. Et bon, là au début, elle l'affirme un peu trop fort d'ailleurs, mais elle a un angle qu'elle va tenir. C'est-à-dire qu'elle a dû se dire la première demi-heure, on va parler de Vincent Lindon au cinéma. La deuxième demi-heure, on va parler de Vincent Lindon et de sa famille, d'où il vient, de ses parents,
de pourquoi il fait du cinéma, etc. La troisième demi-heure, ça, et la quatrième, ça. Et en fait, faudrait, enfin, d'ailleurs, je vous conseille d'écouter les deux heures d'émission en podcast, dans la voiture, sous la douche, mais c'est hyper intéressant parce que faudrait la décortiquer, cette émission, mais je pense qu'elle sait très bien où elle va et elle sait très bien comment elle fait, et pourtant, t'as l'impression qu'il y a des blancs, il y a un moment où ils s'engueulent un peu dans l'émission, enfin, vous verrez, c'est assez drôle, enfin, parce qu'elle lui dit, mais en fait, vous êtes un homme en colère, et alors là, dans son langage, il part. Et pourtant, il y a des moments où il y a des blancs. Il y a des moments où il y a des blancs parce qu'il réfléchit. Mais toi, en tant qu'auditeur, tu réfléchis aussi avec lui, tu réfléchis à la question de Laura Adler. Tu penses, tu te dis, ah oui, moi, comment je réagirais et puis là, tu écoutes ce qu'il a à dire. Et, enfin, et en fait, par exemple, il y a une autre nana que moi j'aime beaucoup, c'est Olivia Gisbert. Qui présente La Grande Table à France Culture. Donc, c'est une émission en deux fois une demi-heure. En général, de midi à midi et demi, c'est un invité un peu culturel de société. Et enfin, justement, deuxième partie, c'est de société, donc ça va être des philosophes, des universitaires, enfin, très France Culture. Et elle, c'est pareil, elle laisse vachement de silence. Elle laisse advenir les choses, mais finalement, comme la question est très précise à la base, et qu'elle sait comment elle va rebondir après, bah t'as pas une impression de laisser aller, ou de... T'as pas l'impression que t'es perdu dans l'interview. Même s'il y a un petit silence, c'est pas grave. Tu sais que ça va rebondir derrière, que la personne va réfléchir, que...
C'est parce qu'elle a hyper bien préparé son émission, je crois, et qu'elle connaît extrêmement bien son invité. Ouais. Donc, effectivement, elle prend pas grand risque parce qu'elle sait qu'elle pourra rebondir potentiellement.
Et que le format est super court aussi.
Et le format est...
De toute façon, même si c'est planté, c'est pas très grave parce que ça va repartir sur autre chose après. Là.
Mais après, elle se plante parfois. Mmh. Ça arrive qu'elle se plante et que l'interviewé en face, tu vois, ça rame quoi, il ne dit rien. Ah, ça c'est hyper important aussi, le choix.
Bah, c'est là où préparer, je trouve. C'est... Bah, parce que même si on lit pas tout, et voilà, au moins d'avoir 4-5 questions au cas où, bah, du coup ça permet de.
Et la non-préparation, c'est un peu un fantasme en fait, je pense. Enfin, tu te dis, c'est comme dans la vraie vie, en fait, j'aurais un enregistreur, sur la joue, là, hop, discute avec les gens, pof, tu fais ça parce que c'est chouette, et puis voilà. Sauf que ça marche pas comme ça.
Bah, ça marche pas, et si on mettait en radio toutes les discussions qu'on a. Autour d'un verre avec les copains, ce serait super chiant.
Non, je suis pas d'accord. Il y a des choses qui sont super intéressantes.
Il y a des choses intéressantes, mais il y a tellement de méandres pour arriver à la chose intéressante. L'interview, ça sert à ça, c'est que tu vas plus...
Mais c'est ça aussi, c'est que en fait, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de l'interview comme ça, mais au fond, il n'y a pas que la prise de son, il y a aussi le montage derrière. Mmh. Et le montage, il est super intéressant, et c'est un moment de construction vraiment totale aussi, quoi. Avec le même son brut, on peut refaire des trucs à l'envers, au fond.
Moi, ça me posait cette question-là. On commençait à parler du choix de la personne, de l'invité ou de la personne avec qui on parle. Moi, j'ai l'impression, là, on parlait aussi dans des cadres où les gens qui sont invités, c'est des gens qui plutôt ont l'habitude de parler à la radio, de faire des phrases qui sont entières, des unités de sens, bon, vous voyez. Et moi, par exemple, quand je reprends des entretiens à monter, ça m'angoisse complètement le rythme de mon entretien, et j'ai tendance à faire ce truc-là de couper toutes les marques d'hésitation, les silences, les phrases. Et ben il faut.
Des fois je dis, pas tout le temps, mais
ce que ça donne, c'est. En fait, c'est vraiment. Et c'est logique, hein, c'est des entretiens qui sont retravaillés, qui ont un rythme. Mais qui du coup ont un format qui sont assez proches les uns des autres et à chaque fois, et ça retranscrit pas forcément.
Que c'est trop lissé, enfin, c'est ça que tu
C'est ma crainte. Alors je me demandais comment vous faisiez avec ça, si c'était des questions.
Le montage, ça peut être la manipulation.
Ah bah c'est sûr.
C'est ça. T'as un exemple d'un interlocuteur qui était hyper lent.
Alors vendredi, justement, c'est une des questions que je me pose. Là, c'était un interlocuteur qui en soi avait un savoir-faire, mais qui était très mal à l'aise à l'oral, très lent. Donc c'était vendredi, jeudi dernier, là. C'est un sujet intéressant. Le mec est représentant départemental sur la thématique. Donc on n'a pas, moi j'ai bossé le sujet mais un peu en mode théorie, pratique, en allant sur internet, etc. Mais on a eu qu'un échange bref au téléphone. Il débarque, c'est pas du direct, il s'exprime à deux à l'heure. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, bon, qu'il y ait des blancs, c'est une chose. Quand ça dure 10 secondes et que c'est à chaque fin de question, c'est un peu emmerdant. Et puis en plus, le mec, en fait, c'est un mec qui travaillait la terre et qui avait certainement vraiment, une fois encore, un vrai savoir-faire là-dessus, mais qui, en termes d'oralité, cherchait vraiment tout le temps ses mots, oubliait le début de la question quand il commençait à y répondre parce qu'il se perdait dans les méandres. Bon, alors, ça pose la question, en fait, est-ce que là, je vais au montage et j'essaie de faire un travail d'orfèvre, blam, pour attraper le truc. Et est-ce que je me dis, bah, tant pis, j'oublie cet enregistrement, et puis je prends sur moi et je l'appelle en disant, bah, c'est vachement intéressant, mais on va trouver d'autres moyens d'en parler, un reportage ou autre chose, parce qu'en fait, si, pour être franc, même en essayant de faire un bon boulot d'orfèvre, en fait, ça va être chiant à écouter, simplement, admettre. Est-ce qu'il aurait fallu que je passe plus de temps à parler avec lui au téléphone avant, et que je me dise, même sur un sujet intéressant, si je sens que la personne, on est en radio et il y a quand même un minimum de capacité orale à avoir, et si je sens que l'interlocuteur en face ne les a pas, ben pas d'invitation, enfin pas d'interview avec cette personne-là, enfin ça pose en fait toutes ces questions. Où est-ce qu'on remonte, où est-ce qu'on se dit bah il y a des exigences ou pas. Honnêtement là j'ai pas encore
tu peux couper les hésitations mais tu peux pas couper le style de quelqu'un.
C'est là où tu manipules.
Quoi. Ouais. Mais c'est là où tu prépares avant.
Je l'ai fait, peut-être que déjà. Gary, je sais pas si tu l'as fait.
Mais je pense que même avec une préparation, c'était quelqu'un qui était pas... Mais peut-être que... Alors dans ce cas, ça aurait été de dire, bah tant pis, c'est pas le bon invité.
C'est ça, mais ça, c'est une question assez compliquée. Je sais pas si vous connaissez Arte Radio. Mm-hmm. Mais le patron d'Arte Radio, Sylvain Gire, il est assez catégorique là-dessus. Moi, je suis pas toujours d'accord avec lui. Lui, il parle de casting. De la personne. Après, il fait pas beaucoup d'interviews, c'est des reportages, etc. Mais il parle de casting, de la voix, de la diction, parce que une mauvaise diction ou quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, ça peut te casser ton reportage complètement. Après, je trouve ça un peu compliqué parce que
ça censure.
Parce que ça censure, parce qu'il y a des gens. La radio, c'est aussi donner la parole aux gens et à n'importe qui, et voilà. Donc c'est moi j'arrive pas à trancher cette question. Après il y a des moyens de mettre à l'aise son interviewé. Il faut les trouver, si peut-être qu'avec ce mec là il sera vachement plus à l'aise dans son champ, les mains dans la terre, et toi le micro à côté, tu vas te faire un peu chier, mais voilà, ça sera peut-être vachement plus intéressant.
Et puis il y aura une ambiance.
Ouais, un peu.
Peut-être que tu peux envoyer des questions à l'avance, peut-être pour qu'il les
Là en l'occurrence il lisait pas trop, enfin bon, étaient deux, il n'était pas tout seul, etc. Mais justement on lui comptait sur l'improvisation, mais il souhaitait pas énormément changer au préalable, peut-être que j'aurais dû être méfiante là-dessus. C'est surtout effectivement se dire aller plutôt sur son terrain, parce que de toute manière je pense que c'est une personne qui n'était pas à l'aise à l'oral. Peut-être qu'il aurait pu être mis un peu plus à l'aise, voilà, en travaillant davantage, mais de toute manière l'oralité sur un mode d'interview sans mise en contexte ou sans être dans son élément, c'était pas...
Mais ceci dit, c'est intéressant que tu ailles sur ce sujet-là. Est-ce que dans... On échange nos pratiques, on fait tous de la radio, on fait beaucoup de maïeutique, on fait beaucoup accoucher la parole. Le nombre de personnes, là, effectivement, tu as des gens qui ont de l'éloquence. Ma longueur d'année, moi, je croise des gens qu'on invite à la radio, ils disent, mais moi, j'ai pas l'habitude, tout ça, je suis traqué. Donc, on est vraiment dans un truc de maïotique. C'est là où l'empathie, le regard, ta préparation, t'as un faisceau d'ingrédients dans la préparation qui font qu'à 99%, ça se passe bien. Voilà. Mais effectivement, ce boulot de l'entretien, c'est le sujet, là, ce matin, eh bien, c'est aussi... L'empathie, la préparation, la culture, le regard, tout ça qui fait que la parole, elle surgit. Et c'est un peu la spécificité de notre exercice radiophonique, dans l'entretien radiophonique. C'est comme ça que moi, je le vis, en tout cas.
Un truc très pratico-pratique, là, j'ai essayé il y a 2 ans, mon parti pris, j'avais un angle d'émission, c'était un peu pour toute l'année, que j'ai pas tenu. C'était, des gens qui n'ont rien à vendre et qui sont rien, on les entend jamais, allons-y. Et je vais les. Ouais. C'était vraiment, c'était ouais. Exactement ce truc-là, quoi. Ouais. Ça a été super compliqué parce que très vite, j'ai rencontré des gens qui finalement étaient assez à l'aise avec la parole, donc bon. Et puis au bout de 2-3, à partir du 3e, il n'y avait vraiment plus rien. C'était complètement sec. Et c'était très très curieux. Et du coup, j'avais pris le parti de, au départ, de couper tous les E, les silences, les machins. Et j'ai fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que du coup, j'ai gardé tout. Tous les E, tous les. Parce qu'en fait, il n'y avait plus que ça au fond. Enfin, ça faisait comme si. Ça allait dans un sens pratiquement abstrait. Enfin, je pense que j'aurais poussé le bouchon un peu loin, il n'y aurait eu que du silence et des E et rien autour, quoi. Mais le. Parce qu'effectivement, c'est compliqué. Mais c'est important, enfin, je crois, hein, c'est une possibilité en tout cas, de laisser, de pas fausser, un peu à la manière de ce que disait Alex tout à l'heure sur si on se tutoie dans la vraie vie, on va pas faire ça pour de faux, quoi. L'idée, c'est pas de descendre les gens, mais juste qu'ils existent comme ils sont. Après, je suis assez d'accord avec toi en disant, dans ces cas-là, tu vas aller voir chez eux. C'est plutôt que de les faire venir là, parce qu'il y a des situations. Mais ça, c'est quand on. Enfin, c'est toujours comme ça, quand t'es en lien avec des gens et voilà, tu sais qu'ils seront plus à l'aise sur leur territoire alors, que sur le tien, ou des choses comme ça. Ça dépend de ce que tu veux.
Ou plus à l'aise quand tu les laisses faire quelque chose en même temps. Quand tu les. Alors, il y a une. Ça, c'est. Plus pour des reportages, peut-être, il y a une technique d'interview qui est assez bonne, c'est la voiture.
La voiture ?
Ouais. Toi, tu te mets en passager, et tu les fais conduire et tu les fais parler. Et là, c'est... Parce qu'en fait, ils te regardent pas, ils sont concentrés sur la conduite. Et il y a un côté en voiture où...
Enfin, je sais pas, déconnecte,
en fait. Ouais, ça déconnecte. Quand on... Enfin, je sais pas vous, quand vous conduisez, si vous avez permis ou pas, mais vous pensez beaucoup...
Et c'est en fait,
ça désinhibe et au niveau de la parole, ça, c'est un espèce de flux. Tu peux avoir des trucs hyper intéressants qui sortent en voiture. Alors après, il faut assumer l'ambiance derrière du moteur, du clignotant.
Ouais, mais faire gaffe à des trucs aussi, parce que moi je me suis retrouvée piégée comme ça en voiture, j'ai fait exactement ça. Et du coup, il y avait la radio derrière, parce que ça tu vois, c'était... Ouais, sauf qu'en fait, quand tu veux faire un montage, tout d'un coup, t'as Julien Clerc qui commence à faire... Mais c'est pas possible, quoi, tu l'entends en fait derrière. Voilà. Donc l'intérêt aussi de prendre beaucoup, beaucoup de sons sans rien, sans parole. Ça, c'est super important. C'est un truc qui va te sauver à chaque fois. Parce que dès que tu auras un pain sur ton son, tu vas pouvoir balancer ça, de prendre des petits bruits, l'équivalent un peu des plans de coupe en fait en vidéo. Donc à la fois du son de rien et à la fois du son de trucs qui se passent, mais sans parole.